Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
Explorer, this is Houston.
Go ahead, Houston.
Mission abort. Repeat. Mission abort.
Explorer, this is Kowalski confirming visual contact with debris. Debris is from a BSE sat. Repeat. I have
Dr. Stone requesting faster transport.
We have to go. We have to go, go, go.
Kennedy reports meteorological conditions. Don't go.
Houston, Explorer, copy.
Explorer, Dr. Stone requesting faster transport to Bay Area. Explorer, do you copy?
Explorer, permission to retrieve Dr. Stone.
Here goes, Walt. Houston, Explorer, copy.
All right.
We've lost Houston.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 secondes.
Nous sommes le jeudi 14 novembre 2013. Bonjour et bienvenue au 21e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast bimensuel des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et des séries que nous avons aimés ou pas. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site internet 24quark.com.
Quark, quark.
2QARKS.com. Voilà, cette semaine, c'est un film tout beau, tout neuf qu'on a vu. Qu'on a vu tous ensemble en plus.
Oui.
Pour la première fois, c'est cool.
Non, pour la deuxième fois, on l'a vu tous ensemble. Parce qu'on l'avait tous déjà vu une fois.
Ouais, c'est vrai. Donc on l'a tous revu ensemble, c'était cool. Et ce n'est autre que Gravity de Alfonso Cuarón. Qui est sorti il y a quoi, quelques semaines, un truc comme ça.
Mais il est sorti à Toronto. Okay. Il était à Toronto, puis il est sorti pas longtemps après, c'est ça?
Ok. L'avant-première au festival.
La première, c'était à Toronto, c'est ça que je veux dire. Donc, okay. Il est sorti cette semaine, puis la première, c'était à Toronto.
Ok. Donc, je suis Nicolas Petzilas, et avec moi, mes comparses, comme d'habitude, Marie-Louise Gariepi.
Allô?
Et Olivier Sabineau.
À la terre.
Donc, veux-tu qu'on parle du vin?
Oui, alors oui.
Pour commencer
Avant de résumer le film, on va. Ouais, alors le petit vin. Alors ce petit vin, il s'appelle. C'est un rouge québécois.
Non, c'est un mauve.
C'est un mauve, d'accord, ok.
C'est un vin de bleuet.
Voilà, un vin de bleuet.
Entre pierre et terre.
Bon. Ouh, un vin du Québec, c'est ça?
Du Québec.
Le mot vin est peut-être un peu fallacieux, hein, quand même.
Bon, c'est marqué sur la bouteille.
Mais c'est intéressant quand même.
C'est plus proche du cidre que du vin, comme on disait tantôt. Ouais. Ça goûte le jus. C'est pas désagréable, mais c'est pas rien de très fancy.
En fait, c'est pour les gens qui n'aiment pas le vin du tout, ni l'alcool, qui n'aiment pas le goût d'alcool, puis qui veulent se sentir un peu pompette en buvant du jus.
C'est parfait.
Mais c'est vrai, c'est tout à fait
sinon,
ça.
Sinon, l'autre option.
Je devrais tellement servir ça. Tu sais, les gens là, qui ne boivent pas parce qu'ils n'aiment pas le goût de l'alcool, là, tu leur sers ça.
Tu leur dis
du jus de bleuet. Juste pour voir la réaction. Je te jure, je suis sûre qu'ils ne s'en rendraient pas compte.
L'autre option, c'est de laisser une canne de jus de canneberge Ocean Spray sur le comptoir pendant 2 semaines, sans farce. Ça devient alcoolisé. Ça devient un mousseux de canneberge, c'est très bon.
Oh! Ben, on va. En tout cas, ça se boit bien quand même, hein. C'est pas extraordinaire, mais ça se boit bien.
Il reste plus déjà.
Ouais, on a fait ça vite. Ouais. Allez, petit résumé du film, comme d'habitude. Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, joué par Sandra Bullock, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalski, joué par notre ami George Clooney, qui effectue son dernier vol avant de prendre sa retraite. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalski se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers, sans aucun contact avec la Terre, ni la moindre chance d'être sauvés. Tadam ! Bien, alors... Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film qu'on vient de voir il y a peu de temps?
Bon, on ne dit pas quand est-ce qu'on l'a vu pour la première fois. Parce que moi, j'ai une histoire à raconter.
Ah, bon, t'as une histoire à ce sujet.
Bon, on fait de la plug. T'as de la plug à faire, Marie-Louise. Je laisse ça pue.
OK, alors vas-y, raconte-nous première fois.
Non, mais c'est parce que c'est 2 premières fois. C'était Gravity puis l'expérience des Body Box.
OK.
Parce qu'en fait, full disclosure, en ce moment, j'ai un mandat avec D-Box. Donc, je travaille pour eux, c'est mes clients.
Okay.
Mais outre ça, en fait, parce que j'avais le mandat, j'ai voulu essayer vraiment l'expérience D-Box que je n'avais jamais fait. Puis, donc, j'ai vu le film avec dans ces sièges qui bougent et puis qui te donnent un peu le feeling manège, comme quand tu avais 12 ans.
Mais finalement, c'est un peu ce que tu trouves dans les venues du style bar d'attraction et compagnie, tu sais, les projections.
Vous vous rappelez, à la ronde, il y avait ça, Hydraulique 94.
Ouais, mais c'est dans la même famille, mais je dirais que...
Sauf que c'est plus sophistiqué, ça.
Exactement. Puis je veux dire, outre toute la documentation puis la connaissance que j'ai du produit, j'ai été vraiment naïvement, très agréablement surpris. Parce que je dirais que le D-Box, c'est l'inverse du 3D. Tu sais, le 3D, tu commences à regarder le film, tu vois juste le 3D, puis t'es comme, waouh, c'est en 3D. Puis après, comme, je dirais... une heure, tu le vois plus pas en tout, puis à la fin du film, tu t'enlèves, tu dis, voyons, c'est quoi que j'ai dans la face? Ah oui, j'ai des lunettes 3D. Ah oui, le film est en 3D. Tu sais, comme l'expérience, on dirait, ça me nuise. Avec D-Box, c'est vraiment l'inverse. Peut-être aussi que c'est parce que le film Gravity, on sait qu'il monte en intensité.
Ouais.
Mais sérieusement, en le réécoutant hier, j'ai vraiment senti la différence, parce qu'à la fin, la scène, comme... Où est-ce qu'il la descente vers la Terre et tout. C'était vraiment super le fun en D-Box d'être dans la vibration et tout. Ça l'ajoute okay. Une expérience vraiment intéressante. Donc,
Mais alors, OK, t'as les sièges qui bougent, qui vibrent. T'as quoi? T'as les haut-parleurs à l'intérieur?
Non, pas du tout.
C'est vraiment
c'est comme... T'as le... Ben, en fait, c'est l'idée qu'on fait un montage image, on fait un montage son, puis on fait un montage mouvement. Mais il y a vraiment des designers, là. C'est pas comme, tu sais, genre au hasard. C'était des motion designers qui pensent, qui regardent le film, qui font des choix artistiques, si tu veux, pour créer la sensation. Puis ils vont s'accoter sur la musique pour tout ce qui est vibration.
Okay.
Puis ils vont s'accoter sur le visuel pour tout ce qui est le mouvement du banc. Okay. Mais quand même, c'est quelqu'un qui place un peu le tu sais, c'est pas fait comme au hasard, là.
T'sais? T'as pas d'objet sexuel pour venir te stimuler
Non, ça pourrait
être... porno en 4D, ça pourrait
être... Je vais amener ta suggestion au client. Je veux dire, avez-vous pensé le cinéma amour comme client?
Il y a
client?
Tout un marché. J'achète.
Mais bon, outre pour ceux qui ne sont pas obsédés par le sexe uniquement, je dirais que c'est une excellente expérience. Je le conseillerais de l'essayer parce que
c'est bien que t'en parles. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est bien que t'en parles parce que moi je me suis toujours dit, OK, est-ce que c'est encore un attrape-couillon, tu sais, où tu dépenses, tu sais, 5-10 pièces de plus, puis en fait, c'est genre le truc qui bougeote un peu et puis genre, ah, c'est rigolo.
Ben c'est
mais écoute, où est-ce que ça vaut vraiment la peine, quoi?
Mais ça reste,
je ne l'ai jamais fait non
c'est
plus.
C'est ça, ça reste subtil. C'est au niveau des sensations. Puis comme vous disiez tantôt, ce n'est pas n'importe quel film qui se prête à du vote non
on
plus.
Est d'accord,
on est d'accord. Mais un film... Puis Gravity est un bon exemple parce que ça commence dans une espèce de flottement. Puis D-Box, c'est assez bon pour créer le flottement. Mais tu sais, moi, je n'étais pas sûre. C'était la première expérience. Puis je chantais l'espèce de banc qui bouge. Puis j'entendais un petit bruit.
Ça bouge dans tous les sens, quoi.
Et puis là, j'étais comme dans cette espèce de flottement-là. Okay, puis au début, ça me déconcentrait légèrement du truc.
Ouais.
Mais bon, c'est normal, c'est la première fois que tu essayes un truc, donc tu es comme concentré sur l'expérience. Puis à un moment donné, je me suis comme habituée. Puis à la fin, comme dans le côté vibration, écoute, quand tu regardes un film, tu es dans l'adrénaline de l'action que tu vois et tout. Ouais. Puis quand tu bouges en même temps, ça, j'avoue que c'est vraiment le fun. Ça, ce côté-là, ça m'a plu.
Même la première fois, je l'ai vu en IMAX 3D.
Ah.
Ça, c'était vraiment bien.
Parce que ça valait la peine, parce que moi, j'ai vu plusieurs projections IMAX 3D, puis bon, c'est quand même relativement récent que la plupart des projections sont en numérique maintenant, mais à cette époque-là, c'était du 35 mm, présenté juste plus gros sur un écran IMAX, mais comme c'est en cinémascope souvent, puis que l'écran IMAX est en 4:3, donc plus carré, t'en perds la moitié jusqu'à un certain point.
Et non, puis... non, c'est pas le cas, parce qu'en général, en fait, tu gagnes en hauteur ce que t'as pas dans les...
Pas dans tous les films. Au début, ils ont commencé à présenter des films en IMAX, des films américains, hollywoodiens. C'était la version originale Cinémascope 35 mm. Ils ont vraiment mis un projecteur 35 dans les salles IMAX. Donc, rendu gros comme ça, ça commence à être même flou, à la limite. Comme quand j'avais vu même le Batman Dark Knight
hein.
Qui avait des shots en IMAX... entrecoupé de shots 35 mm, puis tu vois la différence, c'est le jour puis la nuit, les shots en IMAX, c'est complètement fabuleux.
Là, tu es en train de dire que ça a pas été, le Gravity n'a pas été fait pour le IMAX, c'est ça?
Je sais pas, c'est la question
que
je pose à Nick.
Parce que si ça a été
fait
pour le IMAX, c'est...
Écoute, alors, c'est une bonne question.
Bonne question. Wikipédia
est... C'était plein écran, OK.
Wikipédia est pas loin.
C'était plein écran. Je sais pas si ça a été tourné pour l'IMAX, parce que le vrai format de l'IMAX, c'est 70 mm.
Oui, à l'époque. Aujourd'hui, même l'IMAX est rendu numérique.
Oui, c'est vrai, maintenant. Mais je veux dire, à l'époque, c'était... c'est vrai. À l'époque de Dark Knight, je pense que c'était déjà du...
C'était encore Christopher Nolan n'a jamais tourné en numérique de sa vie, puis il n'est pas prêt à changer d'idée.
Mais je veux dire, c'était pas... c'était simplement c'était le frame 35 mm qui avait été imprimé sur la pellicule 70. C'est-à-dire que tu avais les plans 70 mm...
Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois,
coupé avec les plans 35 mm, je veux dire, c'était du blow-up 70 mm.
C'est du blow-up, mais ça reste du 35 à la source, fait que ça, comparé au shot en IMAX, ouais, okay, que t'as vu, c'est flou, là, pratiquement.
Tu perds un petit quelque chose, ouais, c'est clair.
Donc, si là, ça a été vraiment fait.
Tourné
pour,
au format.
Toi, tu l'as vu au IMAX, parce qu'il y a deux sortes de IMAX, là.
Est-ce que je peux répéter que je déteste mon iPad?
Alors, tout le monde, à go, on met son iPad dans la bol de toilette et on
flush. Non, si tu veux pas, tu me dis. Tu
récupères. C'est important de mentionner, le IMAX a un peu trahi son public parce qu'il est arrivé plein de technologies dans les 3-4 dernières années au cinéma. Ça, c'est important de le mentionner. T'as le cinéma Banque Scotia qui au centre-ville de Montréal qui a une salle IMAX, mais une vraie là, une salle IMAX 7 étages.
C'est là que je l'ai vu
d'ailleurs. Traditionnelle, c'est une vraie de vraie. Ils ont ensuite eu les salles Ultra AVX qui appellent, qui est un nom super mal choisi parce que c'est pas marketing partout. C'est une espèce de dérivé entre une salle conventionnelle grosse puis un IMAX. C'est une espèce de grosse salle qui est pas tout à fait un IMAX. Là, ce qui est arrivé, c'est que IMAX, ils se sont foutus dans tous les cinémas Guzzo en s'appelant IMAX, mais c'est la même chose exactement que du Ultra VX.
Ouais, c'est pas
l'IMAX. C'est pas une salle de 7 étages.
C'est du faux.
C'est du faux IMAX.
Ouais. J'ai vu là-bas. Je crois
IMAX
j'ai vu,
mini, comme le iPad mini de Marie-Louise. C'est de la merde.
Pacific Rim ou The Wolverine, je sais plus, un des deux que j'ai vu là-bas, dans leur fausse salle IMAX.
Décevant.
Ouais, en fait, j'étais jamais allé dans cet IMAX-là. Je me suis dit, tiens. Et puis, ouais, voilà, j'ai eu la désagréable surprise que c'était pas du IMAX, pas du vrai, quoi.
C'est ça,
je me suis demandé, comment ça se fait qu'ils ont le droit de poser le logo IMAX là-dessus. Enfin, bref, on va pas disserter pendant des heures sur IMAX ou pas, mais.
Non, puis moi, depuis.
Tout ça pour dire que.
J'avais eu un vrai ordinateur, j'aurais déjà la réponse à savoir si Gravity a été tourné en IMAX ou pas.
Non, ça a été, je peux te le dire, j'ai checké tantôt, ça a été tourné en numérique en grande partie.
Ouais.
En RAW, avec des. La caméra de Harry, là.
Alexa,
avec la 765, caméra que je ne connaissais pas, et en Panavision Primo aussi. Donc, c'est du numérique RAW à 2 ou 3K de résolution. Ouais. Fait qu'il y a peut-être quand même assez de jus là-dedans pour faire quand même
un bon
IMAX plein écran.
Franchement, en IMAX, c'est très beau. Ce qui me plaît beaucoup dans l'IMAX, surtout le vrai là, qui se trouve au Banque Scotia, et spécialement avec un film comme Gravity, c'est que ça remplit complètement ton champ de vision, te fait que tu rentres encore plus dans dans l'action, dans le film et dans l'action, quoi. Ça m'a déjà fait l'effet avec Avatar, tu sais, ça te permet vraiment de t'immerger complètement, tu sais, tu vois même plus les bords de l'écran, et ça, je trouve ça génial. Et là, c'est pareil, surtout quand ça commence avec ce plan extraordinaire de la Terre, là, qui, tu sais, dans le silence total.
La séquence de 20 minutes.
Ouais, le début de la fameuse séquence de 20 minutes, hein. Et donc c'est ça, ouais. Ma première fois, c'était en IMAX et je l'ai préféré à la deuxième.
Au niveau du visuel.
Au niveau technique visuelle, enfin, je trouvais ça beaucoup plus impressionnant. Enfin, ça a ajouté à l'intensité, je trouve, du film.
Et toi,
quoi.
Olivier, la première fois, l'as-tu vu dans quelque chose d'intéressant? Parce que moi, j'ai vu en D-Box, lui, il l'a vu en IMAX 3D.
Moi, je l'ai vu en IMAX 3D plus D-Box, non. Même pas ça, ça se peut pas.
Moi, j'ai vu un screener sur ma petite télé de 20
j'ai écouté, c'est quelqu'un qui avait filmé au cinéma, j'ai été en un des 100 torrents.
C'est ça,
en 2D.
Filmé avec un iPhone.
Ouais. Puis je pense qu'il a dû copier ça sur une VHS à un moment donné avant de le retransférer sur son ordinateur. Je l'ai écouté sur mon iPhone.
Ouais.
Je me demande pourquoi c'était noir avec des petits bouts blancs.
Je l'ai vu la première fois dans le même contexte. Je l'ai vu la deuxième fois dans une salle traditionnelle, mais une salle de bonne taille. Puis maintenant que tu me dis que... Parce que moi, je me méfie des versions IMAX parce que les dernières que j'ai vues, c'était... c'était du 35 mm mis sur un écran de 7 étages ou c'était des petites salles IMAX. Fait que je suis comme un peu désabusé de payer genre un extra de 5$ pour voir une version un peu à moitié.
Je comprends ton feeling.
Fait que je suis un peu frustré. Là, j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose, de ne pas l'avoir vu en IMAX. J'aurais vraiment aimé ça.
Moi, j'ai beaucoup apprécié ça, en tout cas.
Moi, je regrettais. J'espérais qu'il soit en IMAX quand on est allé le voir hier. Puis là, j'ai réalisé que IMAX, ça dure.
Thor
a pris la place. Ouais. Mais quelles ont été vos impressions de ces films? Parce que
je tiens à dire, n'en déplaise à certaines personnes qu'on n'aimera pas, j'ai adoré ce film. Beaucoup.
What?
Non, moi je sais pas pourquoi ce film-là, il me parle à tous les niveaux. Je comprends le côté un peu cliché qu'était que les gens dénoncent, mais à un moment donné, t'as envie de dire au monde, écoutez, là, je veux dire, c'est un film. D'une certaine façon, qui se veut relativement populaire aussi. Là. C'est pas un film d'Antonioni ou je sais pas, moi, de Bergman, là, puis que les références soient évidentes. Là, par exemple, là, tout le monde a parlé de la fameuse scène du fœtus, que c'est comme
quel
tout.
Quel fœtus?
Non, mais j'ai décidé d'embarquer dans la proposition d'Alfonso Cuarón de faire une espèce de... Pour moi, ma conviction, c'est qu'il a fait une espèce de rencontre entre un film poétique, bourré de métaphores, et un film d'action, pur et dur. Et pour moi, c'est un pari extraordinaire parce que le film d'action, par définition, en fait, c'est un film où est-ce que l'histoire, elle est complètement ramenée à sa plus simple expression, qui est presque toujours un prétexte à l'action ou à amener des scènes d'action.
Ah oui, ça, c'est vrai, par exemple.
Et puis, que souvent, dans le film d'action, tu comprends pas trop l'histoire, puis à un moment donné, tu t'en fous. Les James Bond, là, sérieusement, là, je me rappelle très peu des intrigues, des histoires, des enjeux. Il y en a que c'est plus important que d'autres. Là, on s'entend, je sais pas, Goldfinger, l'enjeu était plus intéressant. Mais souvent, tu as juste du plaisir à le voir dans son char, ouais, courir après le méchant.
Tu travailles plus des scènes d'action que de la trame, finalement.
C'est ça. Et donc, du coup, si tu veux faire la rencontre entre le film poétique puis le film d'action, ben, tu vas au plus simple, c'est-à-dire la mort, la naissance... cette espèce de grandiosité-là de l'univers, la petitesse de l'homme dans ça. Puis j'ai trouvé qu'il y avait très, très bien réussi, que c'est un excellent film, selon moi. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a parlé, je me suis embarquée là-dedans, puis voilà, j'ai décidé.
Alors, donc avant, tu faisais allusion au côté quétaine, que des gens
c'est juste,
dont tout le monde parle, mais
tous les films d'action sont quétaines.
C'est quoi, finalement?
Tous les films d'action sont quétaines, tu sais? Comme genre.
Mais loin est ailleurs, parce que tu l'as dit toi-même, c'est de la poésie. En fait, un film avec des métaphores, mais pas trop subtil. Moi, c'est même pas ça qui m'a gossé le plus dans le film au niveau du scénario, j'en parlerai tantôt, mais si on se fie au côté poétique, c'est que c'est pas cliché, c'est juste trop évident. Il crée des images pour parler de la naissance, de la renaissance, mais on dirait qu'il... Ça manque de subtilité un peu. Il a mis des images très, très
grosses. Mais les images sont superbes. Le visuel
est
superbe.
Superbe. Ça marcherait bien en photo, mais en plein milieu d'une scène, de deux scènes d'action, ça fait un peu... C'est bizarre.
Moi, je trouve que ça reste subtilement amené, hein, typiquement, la scène
du
fœtus.
Mais tu sais, c'est pas si
grossier
que ça en même temps.
Moi, je trouve que ça vient comme... Il y a comme une espèce de... Il arrive dans cette scène de manière très naturelle.
Je parle de
la scène du fœtus.
Ah oui, la scène du fœtus.
La fin aussi, c'est la même chose. Là, quand elle retombe sur la terre, elle va dans l'eau, elle ressort de l'eau. C'est un accouchement.
Mais disons que c'est les deux scènes les plus critiquées, c'est ces deux-là. Dans un film quand même d'une heure et demie, où est-ce qu'il y a de l'action de bord en bord.
C'est marrant parce que moi, ce n'est pas ces deux scènes qui me posent problème.
Ah non?
Mais
moi, sérieusement, il n'y a pas grand-chose qui me pose problème. J'adore ce film-là. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai même eu autant de plaisir, sinon plus, à l'en voir.
Mais le gros problème du scénario, c'est pas tant ça, parce que ça peut passer. Le problème du scénario, puis moi, je trouve que c'est majeur, même si les gens trouvent que j'exagère, c'est l'acharnement qu'on a sur cette pauvre petite astronaute qui n'a pas de break pendant deux fucking minutes, excusez-moi l'expression, pendant une heure et demie de temps, du moment que ça pète à 10-12 minutes dans le film jusqu'à la toute fin, elle ne peut pas souffler deux secondes. Elle réussit à transcender une péripétie qui n'a aucun bon sens et 30 secondes plus tard, il y a une autre péripétie qui n'a encore plus pas de bon sens qui tombe dessus. Pour moi, ça, c'est de l'acharnement scénaristique. C'est dur, c'est difficilement crédible rendu là.
Je veux dire,
il n'y a pas eu d'ellipse de temps quelque part.
J'adore ça.
Aucun sens.
Mais moi, j'étais sur l'adrénaline tout le long, mais ça fonctionne bien. Mais écoute, t'es dans l'espace.
C'est pas crédible.
Oui, mais je m'en fous.
Donnez-y 5 minutes.
Je comprends pas pourquoi tu trouves ça pas crédible.
Ben, c'est trop. C'est vraiment un acharnement. C'est plus crédible par rapport... OK, oui, le film est une métaphore, fine. Mais... on veut quand même embarquer dans l'histoire et le film se passe pratiquement en temps réel, hein, du 2-1 à peu près.
Ouais.
Mais comment ça peut arriver qu'un si grand lot de catastrophes back-à-back arrive à la même personne en si peu de temps? C'est absolument impossible et improbable.
Je pense pas que c'est une question de crédibilité, parce que là, si tu rentres dans la crédibilité, il y a bien des films qui sont pas crédibles, dans lesquels tu embarques par choix. Je veux dire...
Oui.
Je pense que c'est le rythme.
C'est le rythme qui
t'agace plus à ce moment-là, parce que c'est... Puis je suis d'accord que c'est un rythme qui est très, très dur à embarquer. Moi, à ce niveau-là, j'aurais presque le même feeling que The Road, que j'ai pas vu le film, mais dont j'ai lu le livre. Et ce livre-là, mais insupportable, parce qu'à un moment donné, c'est justement la misère après la misère, à un moment donné, moi, j'en peux plus, j'ai pas fini le livre encore.
J'ai le goût de vomir de la misère, puis il était pas rendu à la fin du film.
C'est juste que dans The Road, c'est comme, à un moment donné, c'était juste trop insupportable. Parce que quelqu'un qui est capable d'en prendre, puis qui est glauque, puis qui est cynique, puis qui est noir, c'est moi, là. Genre, j'accote à peu près tout le monde là-dedans, mais comme, c'était émotivement trop The Road pour moi, pour une raison quelconque.
Moi, je l'ai trouvé super intense aussi, mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. J'ai lu le livre après avoir vu le film, en fait.
OK. Mais moi, moi c'est juste que je parle moi.
C'était excellent, d'ailleurs.
Je parle moi. Puis dans Gravity, c'est ce même feeling-là d'une espèce d'intensité qui est comme... Puis il y a quelque chose d'hyper angoissant ajouté à l'intensité de l'action. C'est l'espace, c'est la proposition que sa mort, ça sera pas juste une mort ordinaire, là. T'sais, quand James Bond se fait poursuivre sur la route, si son char, il sort, il va être écrapoutillé. Comme n'importe qui est crapoutillé dans un char, il va être crapoutillé sur la terre. Elle, si elle meurt, elle est comme... Elle va vivre une espèce
elle
de moment
toute
de...
seule.
Comme son partenaire qui, lui, la lâche à un moment donné, puis qui meurt, t'imagines qu'il dérive dans l'espace. Combien de temps ça lui prend à mourir? Une heure? Deux heures, tu sais, puis qui est comme dans cette espèce de vide-là, mais le vide total, c'est hyper angoissant.
Ah, c'est vrai, c'est
puis cette
angoissant.
Proposition, elle ajoute beaucoup au stress que tu as de la voir tout le temps se démener. Donc, avec le rite, plus la proposition de qu'est-ce que ça va être sa mort, peu importe comment elle va arriver, je trouve que c'est très dur à supporter. C'est un film qui est très, 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 très intense.
Oui, ça, il fait bien nous garder on the edge tout le long. Ouais. Mais quand des fois, il y a des moments où j'ai décroché à cause de... OK, elle a pas d'air, elle a réussi à rentrer dans la station spatiale. 30 secondes après, le feu pogne. 30 secondes après, le parachute est pogné. 30 secondes après, à un moment donné, c'est parce que c'est comme wow, là. Mon cerveau peut accepter un certain nombre de choses. Oui, le feeling, c'est correct. C'est un des films les plus techniquement parlant. Je veux dire, c'est la première fois que je vois un film où la 3D prend tout son sens.
Elle est belle, la 3D.
Ouais, c'est un moment de cinéma exceptionnel. C'est pour ça que je suis allé le voir deux fois. Je vais au cinéma trois fois par année, dont deux fois, c'était Gravity. Il faut le faire. J'ai pas détesté le film. C'est juste que j'ai eu de la misère vraiment à toujours rester avec sa proposition. Mais visuellement, c'est une des choses les plus hallucinantes que j'ai vues de ma vie, ne serait-ce que le plan séquence d'ouverture.
Ouais, hallucinant.
Nick, qu'est-ce que t'en penses?
C'est hallucinant. Moi, pourtant, j'avais vu. C'est la seule chose parce que je m'étais, avant de voir le film, je m'étais bien gardé de pas lire ni de critiques, ni de regarder des making-of, ni rien du tout. Je voulais y aller.
Vierge.
Ouais, si on peut. Bah, j'avais quand même vu des bandes-annonces. Puis il y en a une des bandes-annonces. C'était un morceau de ce plan-là. Les premiers impacts, en fait. C'est vraiment. Je crois que c'est la toute première bande-annonce. T'as les premiers impacts, des débris qui arrivent et tout ça. Et déjà là, j'étais comme. Wow. Déjà, je ne croyais pas ce que j'étais en train de voir. C'était comme la vache, mais comment ils ont fait ça?
Ah,
et après, alors de voir ce plan... Bah, alors déjà, je trouve... Mais c'est vraiment un tout dans ce film. Parce que, bon, bah, du coup, j'embarque sur ce que j'en ai pensé aussi. Parce que... donc moi, comme toi, j'ai adoré ce film. Adoré. Parce que déjà, en partant, parce que quand je suis sorti de là, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas passé un film, où j'avais pas eu le cœur qui avait tant battu pendant un film.
Ouais.
Que j'étais accroché à mon siège tout le long, j'étais en apnée pendant le film.
Ouais, ouais.
Plein de moments, j'étais comme tout à coup je m'apercevais que j'avais arrêté de respirer pendant un moment tellement j'étais dans le truc.
Vous auriez dû voir ma blonde quand on allait voir ensemble la première fois là. Elle me serrait tellement fort la main là, qu'elle m'a quasiment pété les doigts. C'était ridicule.
Et franchement, donc rien que pour ça, rien que pour avoir vécu un truc pareil, tu sais, dans un film, pour moi, c'est un film important. Enfin, je considère que c'est un film réussi.
Absolument. Mais ça, malheureusement, la prochaine version qu'on va avoir, ça va être un Blu-ray, un téléchargement numérique. Ouais. Même en 3D à la maison, il va manquer quelque chose.
Tu vas avoir des systèmes d'e-box à la maison.
Ça existe même à Attends, t'as-tu 20 000 piastres? Projecteur d'e-box.
Ce podcast est commandité par d'e-box.
Ça continue, je vais aller la chercher là, comme on dit. qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Non, mais c'est ça, quoi. Et, bah, alors, du coup, en plus, le fait de l'avoir vu en IMAX, c'est encore plus impressionnant. Tu rentres encore plus dans le grandiose. Enfin, c'est ce fameux plan du début où tu as cette terre et puis le plan commence, tu n'as pas un bruit, puis après tu commences à entendre la petite radio au fond à droite.
C'est super. perle.
Ça vient tranquillement. Tu sais,
puis
c'est
tu
comme...
vois apparaître ce petit point blanc.
Ça, c'est un peu, c'est réminiscent de 2001, c'est quelque part. Ça, c'est comme, tu sais, t'as l'impression de revoir une scène de 2001 où t'as l'espace silencieux et tout
moi,
ça.
Moi, j'ai l'impression que ça va être un film important d'une certaine façon de science-fiction. Puis ce qui est de le fun, c'est que on parle de film de science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction. Même d'anticipation, c'est comme une proposition de quelque chose qui pourrait avoir lieu maintenant. On en parle parce qu'évidemment, c'est de la science. C'est comme,
On est dans l'espace, on parle de science, etc.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Mais non, mais puis c'est vraiment. Donc, je l'ai aimé pour ça, pour la qualité technique qui est hallucinante.
Ils n'auraient pas pu faire un film comme ça, mais pour moi, ça clenche Avatar en termes d'immersion.
Ah oui, mais on est quoi?
C'est une coche au-dessus.
On est 10 ans après Avatar? C'est combien de temps Avatar?
5 ça?
Déjà? Non, pas
5 ans.
5 ans? Ouais, plutôt 5 ans. Plutôt 5 ans.
Ah non, 5 ans, excusez-moi, je suis trop enthousiaste. 5 ans, mais 5 ans.
2009.
Mais je pense que depuis Avatar, c'est le film de 3D.
C'est le premier qui.
Depuis Avatar, parce que moi, Avatar, j'avais quand même. On ne parlera pas du scénario d'Avatar, on va le couvrir un jour, mais c'est quand même un film que quand j'ai vu, j'ai fait OK, la 3D, OK, d'accord, je peux croire qu'il y a quelque chose d'intéressant. OK,
j'ai vu plein de films 3D, les deux seuls qui je trouve qui étaient pertinents, ces deux-là.
Avatar,
oui. Les autres, j'en ai vu plein d'autres, puis c'est comme, là, tu peux dire c'est un gadget, dans la plupart des autres cas.
Ouais, c'est vrai.
Comme, ça rajoute-tu vraiment à l'expérience d'avoir Resident Evil 6 en 3D?
Y a-tu quelqu'un qui a vu Hugo en 3D?
Oui, moi, je l'ai vu en 3D.
Est-ce que c'était bon, ça?
Ben, déjà,
c'est de la belle 3D,
je dois être un des rares qui a moyennement aimé le film.
Ah ouais? C'était bien, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était bien.
J'ai beaucoup aimé. Il y a des choses que j'ai pas.
Quoi? Scorsese, il faut aimer, hein?
Tu m'y quittais pour pas aimer Scorsese.
Voyons donc.
Taxi Driver, c'est de la merde.
Tu te prends pour qui, esti?
Moi, je suis la seule personne au monde qui a pas aimé Taxi Driver. Alors, battez-moi.
Non, je suis pas un fan non plus Taxi Driver. Non, mais. Non, Hugo, j'ai beaucoup aimé tout ce qui parle histoire
du
cinéma.
J'ai manqué ma réplique, je suis en train de manger un chip.
Tout ce qui est histoire du cinéma, tout ça, j'avais beaucoup aimé dans Hugo, mais c'était la petite histoire à côté du petit garçon, machin. Là, ça m'avait moins intéressé.
C'est une histoire de petit gosse,
pas intéressant. Mais bref, non, pas ça, mais c'est juste... Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'Hugo.
Gravity.
Revenons à Gravity.
Mais
la 3D, chapeau, la
3D. La 3D est magnifique. Et en plus, la mise en scène utilise la 3D d'une manière unique.
Ah, mais il a combiné les technologies. Il a utilisé des robots pour tourner. Ça, c'est peut-être une première. Ou en tout cas, c'est un nouvel outil. C'est des robots d'usine qui reprogramment pour faire des mouvements de caméra.
Il y en a à Montréal. E-Motion, c'est des robots. J'ai travaillé sur un vidéoclip où c'est un robot qui fait ça faire longtemps.
C'est le même principe que le motion control.
J'ai l'impression que ça vient d'arriver.
C'est du motion control, sauf qu'ils ont ajouté à ça la fameuse lightbox et tout ça, pour faire ces plans interminables et pour aller amener la caméra tout près du visage de Sandra Bullock, etc. Et sans qu'elle se fasse, balader en haut, en bas, etc. Ils ont construit une boîte autour d'elle avec des LED qui diffusaient des images qui tourner dans tous les sens, faire un truc de fou.
Ouais, parce que quand elle spin, là, on sent pas que tout suit la POC, le décor, l'éclairage sur elle, les réflexions dans son casque, ça marchera pas. Tout est synchronisé au millimètre près. Essayer de préparer un tournage comme ça, je suis pas capable d'imaginer.
Non,
c'est proche d'être capable de tourner un truc.
Il y a une performance.
Ouais, comme Olivier. Va venir.
Même que maintenant, après avoir vu le film, j'ai vu des making-of. J'ai lu plein de choses dessus. J'ai vu plein de making-of. Il y a des plans. Je comprends toujours pas comment ils ont fait. Même que je sais qu'il y a beaucoup de. Tu sais que c'est en grande majorité du CG et que même leurs visages sont incrustés sur tout le reste en CG.
Mm-hmm.
C'est quand même.
Non, c'est.
Balèze, tu vois, j'arrive pas à voir la différence. Mais en fait, je la cherche même pas dans le sens où chaque fois je rentre dans le film et puis j'oublie.
Exactement. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai rien lu et tout. Un jour, j'analyserai le film d'une façon peut-être un peu plus technique.
Ouais.
Parce que c'était toujours agréable quand t'aimes un film et tout. Mais moi, j'ai juste envie encore de le revoir. Puis juste de profiter.
De replonger dans ce moment-là,
accepter la proposition de ce film-là. Tu sais.
Ouais. Mais vraiment.
Puis je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec les films d'action. Star Trek, on en a parlé. Ça m'a énervé. Pacific Rim. Le dernier film d'action que je dirais que j'ai aimé, ça serait Inception, que je me rappelle, que j'ai trouvé vraiment intéressant.
C'est vraiment un film d'action.
C'est un film d'action.
Quand même.
C'est un film d'action, mais c'est un film d'action qui a une belle proposition visuelle, esthétique. Narrativement, il y a des maladresses. On en a beaucoup parlé. On s'est amusé un peu à descendre le scénario d'Inception parce que c'est J'avoue que c'est un peu facile là, d'attaquer Inception en le descendant dans son scénario.
D'ailleurs,
ça reste un très beau film qui, quand même, j'ai un bon souvenir. Mais entre Inception puis je dirais Gravity, quel film d'action m'a parlé? Ben Dark Knight, c'est venu un petit avant Inception, de toute façon. Ouais. Donc,
Dark Knight, c'était avant.
Écoute, j'arrive pas à en penser à un qui m'a vraiment plu.
Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un vrai bon film d'action récent, là.
Skyfall.
Ouais, même si vous filmez aussi des lacunes.
J'ai pas vu Skyfall. J'arrive pas à me rappeler si j'ai vu Skyfall. Me semble, ah, pour te
bon
dire.
Skyfall, j'adore.
Il semble que je l'ai vu en plus, puis j'arrive pas à me rappeler. C'est le dernier James Bond.
Dernier Bond, ouais.
Et l'histoire dans le dernier James Bond,
déjà. Oh, ça serait compliqué.
C'est ça. Ben, non, c'est ça. Bon. Agathe, c'est ça. Tu viens de le dire. Ça serait compliqué.
Ouais.
Les films d'action, l'histoire, ça serait compliqué. Dans Gravity, c'est pas compliqué.
Ouais, Gravity, c'est fucking Inception, pas c'est des films que tu peux résumer en deux, trois phrases. Skyfall, attache ta tuque.
Mais
là.
Inception est beaucoup plus compliqué que Gravity. Ouais.
Oui, mais tu peux quand même résumer ce film-là très grossièrement en trois phrases.
Peut-être, mais ce que c'est une des beautés de Gravity, c'est que c'est pas compliqué. C'est des débris de météorites qui provoquent une réaction en chaîne. Qui s'arrête pas jusqu'à la fin du film de quelqu'un qu'il faut qu'il survive. Quoi.
C'est du survival movie de luxe. Et puis, bien mené, plein de poésie, avec une belle performance de Sandra Bullock.
Oui, ben parlons-en, justement. Ouais, ça, c'est intéressant parce que j'ai lu un truc sur les castings potentiels qu'il y avait eu pour le film.
Est-ce que jusqu'avant ça, on pourrait s'écouter un petit extrait?
Ah oui, c'est vrai, on fait ça. Hein.
Ouais, quand même. Allez, un petit extrait pour le plaisir.
À l'envolée.
On revient à Sandra après.
Yes, they call me. I'm detached. I don't know. I don't know. I'm spinning. I can't.
Your position.
GPS is down. I can't. It's down. I can't.
Give me a visual.
I told you nothing. I see nothing.
You have a visual of Explorer.
No.
You have a visual of ISS.
No.
You need to focus. Anything. To the sun and the earth. Give me coordinates.
I can't breathe.
You're burning oxygen.
You have to sip, not gulp.
Voilà, alors on reprend avec un petit vin blanc ce coup-ci. Un petit vin blanc qui nous vient de... D'où est-ce qu'il nous vient?
C'est un vin de miel.
C'est un vin de miel qui s'appelle Envolé.
Québécois aussi.
Un vin québécois aussi. Très beau nom.
Les titres vraiment sont... bon pour le film, je trouve. Ouais, L'envolée, c'est
vraiment bien trouvé.
Oui, puis si on combine les deux, ça fait L'envolée entre pierre et terre.
C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant que le précédent.
Parce que là, on est au rouge puis au blanc, puis souvent contrairement. Une fois de temps en temps, on a un petit cidre de glace, un petit vin de glace, un petit quelque chose. Mais là, je me suis dit, non, pas de vrai vin ce soir. On essaye des potentiels de fiasco, puis...
Ouais, mais tu sais, il se défend bien celui-là.
Tu es d'accord, hein, c'est quand même. Tu veux te servir quelque chose d'original? En fait, moi, je conseillerais aux gens de goûter à ça, puis d'essayer d'agencer ça avec vraiment un plat, tu sais, particulier.
Ça irait bien avec des fromages, parce que ça, c'est sucré, le donc vin, sucré, salé.
Vin blanc va toujours bien avec des fromages, de toute façon. Là, tout ce que,
est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un vin, vu que c'est fait avec du miel? C'est quand même dans une catégorie
c'est
à part qu'un.
D'hydromel. Mais eux, ils disent
l'hydromel.
C'est plus
ça,
comme...
Mais c'est quoi la différence
entre un vin blanc de dessert, c'est pratiquement comme des vendanges tardives ou un... Pour ceux qui connaissent le tariquet, les premières grives, c'est un vin très sucré ou un vin cuit, pratiquement. Là.
Bah, ça, je ne trouve pas si sucré que ça.
Non, moi, je
ne
sais pas.
C'est pas un vin de glace.
C'est pas un vin...
C'est un vendange tardive.
Vendange tardive, ça, je veux bien, mais pas un vin cuit, là.
Non, pas un vin cuit, c'est sûr.
Ça sent le miel.
C'est bon, du miel.
Non, sérieusement, là, ça pourrait être très original de créer un plat qui va avec ça. Voilà, j'ai répété deux fois la même chose.
Voilà.
Et donc,
la Loire, font-tu du vin de miel dans la Loire? Hein, Galaxie?
Et donc, nous allions parler de Mme Sandra Bullock.
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les potentiels de casting. Ils avaient demandé originalement à... comment elle s'appelle, la fille du jeu vidéo, là, déjà?
La fille du jeu vidéo?
Oui, elle qui jouait dans les films de jeux vidéo. Oh mon Dieu, je suis en train de me
planter. La blonde de Brad Pitt?
L'ancienne blonde. Oui, la blonde de Brad Pitt.
Que j'ai un blanc.
Tomb Raider. Ils ont demandé à Lara Croft.
Angelina Jolie!
Et Robert Downey Jr. No C'était way. Les deux vedettes attachées au projet à la base.
No way! Ouais.
Et là, ils ont flushé eux-mêmes Lara Croft, pour je ne sais plus trop quelle raison, c'était pas très clair. Ils ont demandé à peu près, ils ont considéré genre 8 super top comédiennes, dont Natalie Portman, qui aurait pu être assez exceptionnelle. Elle a refusé parce qu'elle est tombée enceinte.
Okay.
Ah, le chanceux! Mais la liste des acteurs, il y a des gens de Carey Mulligan, il y a Scarlett Johansson, il y a ça, genre la crème de la crème, là, des actrices qu'on admire pour et leur beauté et leur talent et tout ce qu'elles font et chaque mouvement qu'elles font. Puis Sandra Bullock, ben non, elle n'arrive pas à être une has-been. Hein. Ça tire encore bien les cartes de son sac. Elle s'est entraînée pendant 6 mois, ça paraît. Un petit cul parfait, excusez-moi l'expression. Un petit peu de botox, un petit peu de collagène, ça paraît pas trop, ça y fait bien. Elle a 40 ans.
Je pense qu'elle a plus que 40 ans, Sandra Bullock.
Ben, dans la quarantaine. Mais c'est ça. Mais un petit peu de botox, un petit peu de collagène, ça fait un job, tant que ça reste subtil. Elle a jamais eu des babines grosses de même, checké comme faux, puis elle a aucune ride autour des yeux.
Ouais.
Elle a juste pas l'air de jammer, fait qu'ils en ont mis à la bonne quantité.
Excuse-moi, c'est parce que tu te trompes de 9 ans, elle a 49 ans, là.
49 ans, puis elle
ouais,
a...
J'ai 40 shape... ans.
Elle a 49
elle
ans?
Elle est shaped de même.
Oui.
Hey, mais parfait.
Je savais qu'on se trompait.
Oh là là! Hey, 49 ans, ça n'a pas de sens.
Oh!
Mais attends,
c'est vrai, j'aurais dû réagir.
Elle a mieux réussi sa chirurgie plastique que Madonna.
Sandra, veux-tu m'épouser?
Moi, j'ai toujours eu un gros faible pour Sandra Bullock.
Mais dans Speed, c'était quelque chose, mais ça date quand même déjà, il y a une quinzaine.
Ah, je trouve ça tellement drôle que dit qu'elle a 40 ans. C'est comme genre, non, je veux dire, j'ai 40 ans.
Mais parce qu'elle a l'air d'en avoir genre, quoi, 35 gros max dans le film, à peu près.
Ouais, elle fait jeune, ouais.
Elle fait chier.
Mais il y a plein. Non, mais il y a plein de gens qui ont critiqué justement ces histoires. Ben, moi, je sais pas, j'ai comme vraiment pas envie de parler sérieusement de la chirurgie plastique, ces histoires-là. J'ai envie de parler de son jeu, de sa présence dans le film, parce que je suis tannée d'entendre toujours que ça revienne à la chirurgie plastique.
Ah, c'est pas un commentaire négatif ça paraît.
Okay, non, mais,
mais au moins, c'est fait avec subtilité. J'ai aucun problème avec ça.
Non,
le
mais
droit,
c'est parce que je parlais pas de toi, je parlais de ce qu'on... Non, je parlais du général. Okay? Mm. Ça a été sur Twitter, partout. J'ai plein d'amis qui ont fait des commentaires.
Des critiques sur elle?
Ben oui, c'est comme genre... T'as beaucoup plus de commentaires sur le fait que elle est botoxée, puis elle est chirurgie plastique, que sur sa performance, puis sur son jeu.
Non, sa performance est deux doigts près d'être exceptionnelle.
Ouais.
Je trouve que juste les dialogues, un petit peu de marde à la fin, là, mais sinon...
j'adore sa performance.
C'est quelque chose, là.
Moi, je dis qu'elle est aux Oscars. Je dis qu'elle est nominée.
Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé sa performance. Si j'ai adoré le film, certainement que j'ai adoré le jeu des comédiens. C'est une partie intrinsèque d'un film comme celui-là. J'ai trouvé ça, tu sais, des petits détails.
La scène
où est-ce qu'il est en train d'entendre le chinois qui parle avec son chien et son bébé, puis qu'elle commence à faire le loup, qui est un peu fou, qui est un peu weirdo et tout. Ça pourrait tellement, tu sais, entre les mains de n'importe quel comédien, ça pourrait comme avoir l'air de rien, mais avec elle, c'est hyper touchant. Tu sais, je me demande jusqu'à quel point c'était dans le scénario original comme ça, puis qu'est-ce qu'elle a apporté à cette scène-là, mais c'est un détail.
Je pense pas qu'ils ont improvisé sur le set, parce qu'ils sont préparés très longtemps, puis elle a gossé Alfonso Cuarón comme une malade mentale. Pour chaque respiration, chaque ci, chaque ça.
On s'est entendu qu'elle a dû lire le scénario puis qu'ils ont dû avoir des pratiques, là, tu sais.
Ils ont travaillé ensemble sur le scénario, sur son personnage pendant des mois de temps. Chaque respire était calculé et pratiqué d'avance. Chaque réplique était... allez lire là, les comments à ce niveau-là. Là. Elle a pratiquement pas co-réalisé le film, mais elle s'est tellement
investie
dans son personnage. Elle voulait faire de quoi. Puis effectivement, même si ça avait été une Scarlett Johansson, elle se serait probablement difficilement approché de ce calibre-là.
Ouais. Ah, c'était...
C'est quelque chose, là. Ouais. J'aurais aimé voir Robert Downey Jr., même avec... Tu sais, que ce soit Sandra Bullock ou un autre, là. Mais George Clooney, c'est comme, ils ont mis un gros nom pour mettre un gros nom, mais il est là au début, puis après ça, on le voit plus, puis il est bien sympathique, mais...
Je trouve qu'il est bien casté. Enfin, le rôle lui correspond bien.
Oui. C'est ça.
Je sais pas.
Je pense qu'il s'est approprié le rôle.
Downey, je l'aurais peut-être vu un peu jeune pour ça.
Mais non.
Jeune, mais
ils ont le même âge, à peu près. Vous avez des problèmes à vos âges de comédien, là, parce qu'il est plus jeune.
Ce que je veux dire, et encore, je dis ça, mais c'est salaud parce que Downey est un excellent acteur.
Moi, je pense que ça aurait été intéressant.
Mais
je pense que ça aurait été... George Clooney n'est pas un acteur inintéressant, mais je pense que...
Non, mais George Clooney, tu vois un gars d'expérience.
Mmh. Ouais.
Mais des fois, il a peut-être trop confiance en lui. C'est peut-être ça qui me fait chier.
Peut-être.
Je ne sais pas si vous avez vu la saison...
Puis c'est le personnage...
7 de Dexter.
Non.
Si je me trompe pas.
Oh mon Dieu, non, je me rends plus jusque-là.
Il y a un comédien qui ressemble comme deux gouttes d'eau à George Clooney. Je ne me rappelle pas son nom. Il joue le méchant dans la saison 7 de Dexter. C'est George Clooney en une coche meilleure.
Okay.
Le gars est pas connu, je pense qu'il est peut-être British, il a comme un petit bout d'un petit brin d'accent. Il y ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est épouvantable. Mais il est meilleur parce qu'il n'y a pas cette assurance-là un peu chiante de George Clooney qui sait qu'il est hot depuis 20 ans. Puis que,
ouais, c'est ça, George Clooney.
Il joue son propre rôle, là. Il fait son charming boy, là, son petit player. Mais l'autre, il y a une coche de profondeur de plus. Là. Il faut retrouver cet acteur-là, il faut le faire jouer dans nos films. C'est un malade mental. Là.
Ok, bon, c'est pas compliqué, va sur
lui, il aurait fait une meilleure job que Clooney. Puis le monde se serait trompé, il y a la même face.
En même temps,
moi, je trouve que Clooney, il est bon pour ce qu'il est. Ouais, il vole pas la vedette
à Yiannopoulos. Dans le fond, c'est ça, tu sais, je veux dire, comme la c'est une performance qui appartient à Sandra Bullock. Puis si ça avait été un acteur qui avait comme créé quelque chose de spécial, c'est un personnage, c'est un archétype, en fait, le personnage de George Clooney. Là.
Il m'a fait penser un peu au personnage dans Apollo 13 de Tom Hanks, mais en un petit peu plus player.
Mm-hmm.
On dirait que tous les astronautes au cinéma américain sont cool, comme ça. Puis ils racontent des histoires, puis ils ont de la répartie, puis ouais, machin.
Mais c'est drôle parce que j'écoute un podcast qui s'appelle... je vais voir un blanc, là. Je vais aller le trouver, mais en tout cas, c'est un podcast de science. Et ils ont invité un astronaute à commenter justement Gravity. Ils ont fait toute une série. Je m'en vais de ce pas vous dire le nom de ce podcast-là.
Il y a eu un gag qui est passé sur Facebook par rapport à notre astronaute canadien là, qui est allé dans l'espace il n'y a pas très, très longtemps, avec la moustache qui joue la guitare.
Oui,
est bon avec les noms aujourd'hui, hein. On s'en fait plus. Hein? C'est pas Chris Hadfield.
Non. Chris Hadfield.
Chris Hadfield.
Ouais, il y a eu une joke qui est passée, il y a un faux article qui dit qu'il est allé voir Gravity au cinéma, puis qu'il était tellement en tabarnak, puis qu'il arrêtait pas de chialer contre tout ce qui était scientifiquement inaccurate dans le film, qu'il s'est fait sortir de la salle. Mais si vous arrivez à retracer cet article-là, c'est pissant. Parce que ça dit qu'à un moment donné, il est tellement en tabarnak contre tout ce qui est inaccurate qu'il a juste lâché un gros pet en plein milieu du film. Puis que là, il y a du monde qui sont allés se plaindre, puis qui sont arrivés à deux gardes de sécurité pour le sortir, puis qu'il est en train de faire le fou. Mais c'est...
Ouais, je pense que... Ben, parlons-en.
C'est l'humour. C'est pas arrivé pour de vrai.
Ouais.
Du côté accuracy scientific, là, il y a justement... j'ai retrouvé le podcast. C'est Neil deGrasse, un grand vulgarisateur scientifique.
J'ai entendu
parler de ça. Oui, il y a une émission qui s'appelle Star Talk Radio, qui est vraiment, vraiment très excellente, dans laquelle ils ont fait un spécial Cosmic Queries sur Gravity, le film. Puis en gros, les gens appellent, posent des questions. Neil deGrasse, c'est un astrophysicien. Puis il fait ça, là, genre comme les gens appellent, ils posent des questions, puis ils répondent à des questions de science. Et donc, c'était sur Gravity. Puis en gros, c'est très, très proche de la réalité. Là. Ils ont fait une belle recherche scientifique et tout. Puis c'est drôle parce que hier, c'était très intéressant. Je pense que les gens veulent voir des erreurs scientifiques sans vraiment, excuse-moi Olivier, connaître, parce que tu vas voir pourquoi je m'excuse, connaître un peu leur base scientifique. Parce que je m'ostinais hier avec Olivier sur une scène du film et je m'étais ostinée aussi avec Pascal, avec qui j'avais vu le film la première fois sur la même scène. Les deux personnes croyaient que c'était pas vrai scientifiquement. Puis là, genre, je veux dire, c'est quand même... J'étais là, non. C'est comme des bases de physique, l'histoire, le moment où est-ce que... Et justement, George Clooney va mourir. C'est vrai que c'est un moment intense, mais c'est toute la... il y a une réalité là. Donc, tu sais, ça marche. Là. Je veux dire, ils ont fait leurs calculs des lois de la gravité et tout. Dans l'espace,
il n'y a pas de gravité dans l'espace.
Ah, mon Dieu, Olivier, ton prof de physique, il va te faire une fessée. Il y a de la gravité dans l'espace.
Oui, pas beaucoup.
Il y a de la gravité partout dans l'espace. Il y a de la gravité, ça s'appelle... Non, ça n'a aucun rapport.
Le soleil, il y a plus de gravité que...
Non, dans l'espace, oui.
C'est n'importe quoi.
Tu dis vraiment n'importe quoi. Il y a beaucoup de gravité dans l'espace.
Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de son.
Ça n'a aucun rapport. Oui, il n'y a pas d'air.
Dans l'espace. Ah, bon.
Il n'y a pas de son.
Bon, tu m'as donné raison. Ha, ha.
Il n'y a pas de gravité dans l'espace.
Il n'y a que de la gravité dans l'espace.
La gravité, il y en a même partout dans l'univers. Dès que tu as deux masses, OK, il y a de la gravité. C'est pas compliqué. Donc, tu as deux objets distincts.
Toi, tout le monde est deux masses, il y a de la gravité entre nous deux.
Oh oui!
on s'en retient fort, je trouve.
Bon. Oui, mais la science, quand elle est vraiment mal enseignée à l'école, je vais te dire. Parce que... En tout cas, bref, c'est tout ça pour dire qu'il y a une bonne base scientifique. Et ce qui est intéressant, je vous conseillerais d'aller l'écouter, donc le Cosmic Queries du podcast Star Dark Radio.
On va mettre le lien parce que c'est mal prononcé là, sur le Facebook.
Star Talk Radio.
Star Talk.
Donc, je vous conseille d'aller écouter ce podcast-là parce que non seulement ils ont pris l'approche scientifique avec Neil deGrasse, qui est l'astrophysicien qui explique des concepts de science puis des problèmes qu'ils peuvent avoir bon, répondre aux problèmes que les gens peuvent avoir le fait, mais il y avait aussi un astronaute qui pouvait raconter l'expérience. Puis il décrivait des détails comme évidemment les instruments qu'on voit. Il dit c'est les mêmes instruments que nous, on utilisait sur Hubble. Le feeling de l'espace, c'est très bien représenté. C'est le feeling de l'espace. Non, mais
c'est clair qu'ils ont étudié la chose avant de se lancer là-dedans. Je veux dire, ils n'allaient pas faire un truc pareil.
C'est ça. Donc avant de faire des critiques
en
gratuites.
En n'ayant pas des consultants, je veux dire, des spécialistes, c'est quand même pour avoir un minimum de réalisme, il me semble. T'sais, oui, mais, après. Ouais, après il y a des choses qui sont.
Mais c'est pas le cas de ce film-là. Tu sais.
Je prends Michael Bay, par exemple. C'est une science-fiction.
Ah, Michael Bay.
La tête de Turc.
Mon meilleur ami.
La tête de Turc de lui, en tout cas. Mais un détail, par contre, ce qui est d'être un des bouts intéressants du podcast, c'est quand, la scène du feu. Okay? Ça, c'était un des moments où est-ce qu'il y avait un problème dans le film, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, problèmes et tout.
Quelques-uns, tu dis.
D'un point de vue scientifique. Il y avait quand même quelques questions.
Il y a un gros problème tout le long.
Quel groupe? Non, dans le sens de problème, non, mais je veux dire, problème par rapport à la réalité scientifique. Puis ça, c'est super intéressant parce que là, il expliquait que le feu dans l'espace, probablement que comme il n'y a pas de, justement, il n'y a pas d'oxygène, puis il n'y a pas de gravité, il n'y a pas cette espèce, la gravité fait en sorte que sur Terre, l'oxygène va descendre, puis va rentrer dans le feu, puis le feu va comme faire une sorte de sas où est-ce qu'il va consommer l'oxygène. Okay. Ça crée un vide d'oxygène, donc l'oxygène tombe. Puis ça va comme nourrir constamment le feu. Donc, il supposait que dans l'espace, si tu pars un feu comme ça puis que tu le laisses aller, dans un espace qui a de l'oxygène, le feu va pas s'amplifier facilement parce que l'oxygène va pas circuler facilement. Donc, mais l'astronaute est assez comique. Mais il dit, par contre, on l'a comme jamais essayé puis testé. C'est pas le genre d'hypothèse qu'on veut tester, tu sais.
C'est peut-être pas nécessaire de le tester non plus. Donc, moi, il y a un film qui m'a marqué.
Tu peux embarquer dans l'histoire du film.
Un grand film de science-fiction qui parlait de ça. Ça m'a toujours marqué. Le feu dans l'espace. Vous vous rappelez de Event Horizon?
Oui.
De Paul W.S. Anderson.
Oui. On en parle souvent, d'ailleurs.
Pas vu.
Un grand réalisateur qui est devenu très végétal. Bref, dans ce film-là, tâcheron. Il y a l'acteur qui joue aussi dans La Matrice,
Lawrence
Fishburne, qui parle d'un moment traumatique où il aurait abandonné un de ses confrères, puis ça l'a traumatisé à vie, parce qu'il était dans l'espace à zéro gravité, puis que son collègue s'est fait bouffer par le feu. Et là, il se met à décrire de quoi a l'air le feu à zéro gravité. Vous irez voir cette scène-là. C'est le fun. La façon qu'il décrit, il décrit quelque chose de beau et d'horrifique à la fois. C'est une scène superbement écrite qui dure 12 secondes. J'ai juste ça à dire. Parce que moi, le feu dans l'espace, dans tout mon imaginaire, depuis 1997 que le film est sorti, ça a toujours été ce que Lawrence Fishburne a décrit dit, de c'était quoi. Fait que là, de le voir dans un film, c'est comme, il a pas dit comme ça. Je suis sûr qu'il avait raison, c'est Lawrence Fishburne, c'est Morpheus. On mélange les choses, hein, je pense.
Ouais. On va le faire, un de ces quatre, Event Horizon, depuis le temps qu'on parle.
On peut faire La Matrice aussi.
Ouais, hein. C'est vrai. Mais en tout cas, moi tous ces détails, parce que je me dis, tu sais, en voyant le film, je me dis bien qu'il y a plein de choses qui sont comme un petit peu laissées pour compte parce au service du drama, tu sais.
Mais comme dans tout film, tu sais, je veux dire.
C'est comme son arrivée
sur Terre.
C'est correct, tu sais.
Comme son arrivée sur Terre qui est un peu expédiée. Enfin, j'entends, tu sais, elle sort, elle se retrouve dans l'eau, elle a toutes ses forces, alors qu'on sait que quand les astronautes arrivent après un voyage dans l'espace, ils sortent sur des brancards. On en parlait hier à la sortie du film. Mm-hmm. C'est comme. Donc, il y a plein de choses comme ça où tu dis, ouais, ok. Mais t'es tellement.
En même temps, elle tombe dans l'eau, tes mouvements, c'est différent. Donc, il y a peut-être qu'elle a enlevé son saut sans avoir besoin de toute sa force musculaire.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'elle ne combat pas la gravité de la même façon que si elle est en dehors de l'eau.
C'est vrai.
Fait que ça, pour moi, ça.
Ça permet.
C'est que là, à Manet, elle s'enligne vers les algues. Je dis, non, qu'elle se pogne pas une jambe dans les algues, là, parce que Manet, donnez-y un fucking break.
Non, pas ça, là, c'est bon, elle en a tellement chier.
J'avoue que je pense que les algues, elles étaient
dedans. C'est Jason qui va y accrocher le pied.
C'est ça.
Sont dans le fond de Crystal Lake.
Heureusement, elle passe à travers, puis ça va. C'est comme.
Je pense que tout le monde a dû avoir la même. Sinon, j'aurais garoché quelque chose sur l'écran.
C'est foutu, lui, la fête.
Pensez-vous qu'il y aurait une longue version de Gravity qu'on n'aurait pas vue? Non,
ah,
ils ont pas
vu. C'est sûr.
Tu penses? Parce que.
Ah, ouais. Genre de film.
C'est lui qui a fait son montage, là. C'est ça, j'ai remarqué, c'est Alfonso Cuarón qui a fait son montage.
Ben, il a tout fait dans son film. Produit, réalisé, écrit,
c'est écrit avec son fils.
Il est pire que.
C'est beau, ça.
C'est son fils?
Ouais,
c'est pas son frère?
Son fils.
Oh my God!
Jason, c'est son fils.
Oh my God.
C'est beau, hein?
La voix du gars qui apparaît sur la radio AM aussi, là, c'est un court-métrage. C'est un personnage dans un court-métrage que son fils a fait. Le gars avec le chien.
Sérieux?
Ah oui, le... ah oui, OK. Oh,
ouais, ouais, ouais. Il a récupéré ça.
Wow.
Très intéressant.
Ça, c'est
comme,
à mon papa.
Il a quel âge, Alphonse?
Faut que j'en prenne de la graine.
Il est pas gay, lui?
Des... Mais visiblement pas. Ben, tu vois, remarque, les gays aujourd'hui doivent faire des bébés. Hein?
Attends, on va aller voir. Ah. J'ai
il y a 49 ans, genre, comme Sandra Bullock. Il est botoxé, puis tout. Il parle ça en anglais? J'imagine que moi.
C'était Olivier qui commence à dire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faudrait que...
Il est pas peu...
Ah non, il est plus vieux. Il est de 61.
Ouais.
Il est né en 61 ou il est 61?
Il est né en 61.
Ah, il est né en 61. Okay. Là, écoute, arrête.
Bullock est de 64 et lui, il est né en 61.
C'est parce que tu as dit il est 61. Là,
non, j'ai dit il est de...
OK, donc début cinquantaine. OK, bon, c'est correct.
Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'était une agréable surprise aussi d'entendre la voix de Ed Harris.
Ouais.
Petit clin d'œil à Apollo. Petit clin d'œil à Apollo 13. C'était drôle, ça. Mais,
on aime beaucoup Ed Harris, quand même.
Ouais.
Il y a toute une voix, en plus.
Hein. J'adore ce gars.
Moi, je ne l'avais pas reconnu.
Mais moi, je me suis posé la question... Enfin, dès que j'ai entendu cette voix, j'ai dit, mais c'est, on dirait vraiment Ed Hurst.
Mais il était-tu dans Armageddon aussi?
Non.
Non.
Michael Bay a fait un mauvais casting.
Ed Hurst serait pas.
Non. C'est. Comment ça s'appelle? Ah, c'est l'ex-mari de Angelina Jolie. Comment il s'appelle? Ah, Billy Bob Thornton.
Ah oui.
Ah, on dit Billy Bob.
Billy Bob Thornton.
Il est dans Armageddon.
Il est disparu, lui.
Ouais, c'est lui qui.
C'est la part de Miley Cyrus, right? Non.
Non.
Parce que c'est un musicien de country.
Mais c'est
vous,
pas
entendu vous avez pas entendu l'album
de
Billy Bob Thornton?
Non.
Il a sorti un ou deux ou trois albums de country.
C'est peut-être ça qui joue dans le film à un moment donné.
Je sais qu'il fait de la musique.
De country.
Ah ouais.
Bon, on fait des liens qui ont.
Ouais. Oh, on est rendu dans les liens. Mais y a-t-il autre chose qu'on va dire sur Gravity? OK, le son, évidemment.
Oui,
le son dans l'espace.
L'utilisation du son extrêmement effective.
Moi, qui est toujours en train de revendiquer que, je veux dire, c'est presque parfait là-dedans. Parce qu'évidemment, il n'y a pas des bruits de son, puis on travaille beaucoup le son intérieur du casque, etc. Ouais, mais j'aime
tricher avec la musique.
Il y a triché des bouts où est-ce que, comme quand il y a
correct,
des collisions...
C'est super subtil.
Mais c'est ça me plaît beaucoup plus parce qu'on...
collisions, j'ai vérifié, hein, puis c'est vrai.
Ah
quand
ouais?
t'entends le son juste quand l'astronaute se cogne sur une surface, c'est que le son est propagé à l'intérieur de son corps et rentre dans son micro. Et c'est arrivé vraiment dans l'émission lunaire réelle de la NASA.
Ah, c'est intéressant.
Donc, ça.
Ça,
ils ont checké leur affaire.
Ah, ben, OK, ça, j'étais pas sûr.
Mais ils jouent beaucoup
okay,
avec
ben,
ça.
Bravo, merci.
Mais ils jouent beaucoup avec ça, avec le son intérieur, finalement.
Oui, c'est ça.
C'est super intéressant.
Puis ça, c'est
quand
ça, c'est
Sandra, elle essaie de. Quand elle a plus d'air, puis qu'elle veut rentrer dans la première station spatiale, la russe.
Ouais.
Puis qu'il y a juste du son quand elle se cogne sur la surface, qui arrive à peu près aux 3 ouais. secondes, parce qu'elle est rendue un petit peu. Il n'y a pas de son, elle se cogne, il y a du son, il n'y a pas de son, elle se cogne, il y a du son, puis il y a toujours un petit délai. Ça, c'est pratiquement pile poil, il paraît.
Il y a un truc très intéressant avec le son.
Le son passe à travers son corps.
Ouais. Et il y a un truc intéressant.
Jouissif qui est respecté une vraie convention qu'on devrait établir dans tous les films d'espace.
Ouais. Et puis en plus, ça a un impact.
C'est impressionnant quand elle essaie de s'en sortir. Puis bon, quand les shit reviennent, les débris reviennent, puis que là, tu vois la station spatiale explosant derrière d'elle, puis que t'entends rien. Bon, là, ils ont mis la musique dans le tapis quand même pour compenser le thrill.
Ouais.
Seul problème dans cette scène-là, c'est que tu dis, bon, là, il y a des débris qui arrivent. En arrière d'elle, c'est un holocauste nucléaire. Et elle, son espèce de pote de secours, ne reçoit aucun débris, aucune poque, aucun rien. Tu fais comme, là aussi, là, give me a break, là.
Tu veux-tu lui donner un break ou pas?
Non, mais attends. À ce moment-là, c'est là qu'elle aurait dû mourir.
Ouais, c'est vrai,
parce que là, c'est impossible qu'elle s'en sorte. En arrière d'elle, tout explose.
Mais là, t'as plus de film.
T'es incohérent, lui. Tantôt, tu trouvais qu'il avait trouvé trop dur, là. Il lui donne un break, t'es
non,
pas content.
Non, mais tu y vas ou tu y vas pas, il n'y a pas d'entre-deux. Là, c'est constamment... là, ça, c'est de la triche. Mais côté son, t'as vraiment la station qui explose en arrière et que t'entends pas un son. Ça c'est un boom.
Ouais. Il y a un truc super intéressant avec le son aussi à la fin. Quand il y a l'eau qui rentre dans le pod, tu sais, une fois qu'elle est sur Terre, où il y a à la fois le son ambiant autour d'elle et la musique... qui s'arrête à chaque fois que la caméra passe sous l'eau.
Ah, la musique aussi?
Ouais.
J'ai pas remarqué ça.
Parce que t'as la musique qui est là, qui remplit aussi la scène, parce qu'elle est là en train de prendre son souffle avec l'eau qui rentre.
C'est un beau détail.
Et qui l'empêche de s'arrêter. Et à chaque fois que la caméra passe
sous
l'eau, et t'as tout qui repart après. Et c'est, je trouve hyper intéressant comme utilisation du
mais
son.
Le monteur
tout au long
son,
du film,
regarde,
tout au long du film,
le monteur son là, que tu dis qu'il allait comme souffrir parce qu'il peut pas avoir de son, il a fait un job extraordinaire dans ce film.
Okay. Nomination aux Oscars pour toute l'équipe de son, montage et mix, il pourrait même peut-être remporter un prix.
Franchement, il y a un travail fabuleux là.
Ils gagneront certainement pas meilleur scénario,
mais...
On
n'en parle pas assez du montage quand on fait nos critiques de films, parce que...
Non, puis dans les science-fiction, c'est tellement important.
Dans tous les films, c'est important.
Ce qui fait un grand film de science-fiction, bon, il y a la technique image, mais si le son n'est pas sa coche, le son, c'est 50% des fois plus de l'expérience cinématographique. Dans un film de science-fiction, c'est encore plus critique que ça. Qui a inventé des nouvelles choses en cinéma? Ça s'est fait beaucoup dans les... Bon, on parle de Star Wars, là. Mais oui. Tu peux inventer des façons de faire, tu peux inventer des sons, tu peux inventer des conventions, tu peux juste décider d'être hyper réaliste ou d'aller en contre-emploi avec la musique, un peu comme dans There Will Be Blood, ils sont allés super en contre-emploi avec la musique, comme j'ai senti un petit peu de ça quand même dans Gravity, où la musique compensait pour le manque de son, mais qui était beaucoup trop intense dans des moments calmes et vice-versa.
Je l'ai bien aimé, la musique.
Ouais,
je l'ai trouvé vraiment...
Ouais, j'ai vu qu'il y a du monde qui n'avait pas trippé sur la musique, mais au contraire,
c'est assez... Non, moi, je trouve une belle transition. Elle va bien avec le film.
Je la trouve vraiment...
Elle a un côté très classique, mais bien, de goût, tu sais. Dans le sens que c'est pas une musique, c'est pas une musique qu'on remarque. C'est ça que
non,
je veux dire.
Elle essaie pas de voler le show.
C'est ça, quand je dis que c'est
pourtant,
classique.
Pourtant, c'est présent. Hein. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une tension qui s'installe et que tu as cette espèce de ronflement qui vient derrière.
Mais tu la remarques.
C'est un truc qui vient ponctuer le.
Mais je dis pas qu'elle est pas présente, c'est que tu la remarques pas. Ça te met pas dans un état de distanciation. T'es pas en train de te dire, oh mon Dieu, la musique.
Elle joue le jeu de la conception sonore parce qu'il n'y avait pas le droit de la conception sonore. Puis ils ont beaucoup joué sur des sons très aquatiques dans l'espace pour justement nous donner des cognements puis des ci, des ça, auxquels on n'aurait pas droit, ça c'est là qui triche, avec des sons très aquatiques, des blou, 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 des affaires comme ça. Ça c'est super, ça, j'ai même pas remarqué 2 secondes la première fois.
Juste vous dire, la musique, c'est Stephen Price.
Le frère de Carrie.
Qui est connu pour être dans le département de musique de... Attends, c'est lui qui a fait la musique. Est-ce qu'il a fait la musique, mais il était dans le département de musique de Lord of the Rings?
OK.
Un et deux.
Okay.
Batman Begins.
Ok,
c'est mauvais ça.
Scott Pilgrim vs. Superman, pas la musique, mais il y a département. Là, je pense pas que c'est lui qui a fait la musique de Batman Begins.
Ça serait
Begins.
Sa première gig.
Mais non, c'est pas lui.
C'était Hans Zimmer qui a fait la musique.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a travaillé dans des bons films là.
Ouais.
Mais là, c'est lui qui signe la musique de Gravity. Right?
Oui.
Il a fait quoi d'autre comme compositeur?
Ok, ben connu pour comme compositeur.
Vas-y, dis-nous tout.
Filmographie complète. Allons-y. Comme compositeur, c'est 6 films. Gravity, The World's End, Attack.
Ah, The World's End, c'est lui.
Attack the Block.
OK. Attack the Block, oh!
Sucking is a Fine Quality in Woman and Vacuum Cleaners.
Je connais aucun de ces
films. Ça, c'est un cours. Attack the Block.
T'as pas vu Attack the Block?
Non.
Attack the Block. Il faut qu'on le fasse, Attack the Block. C'est génial.
Je l'ai pas vu.
Ah, il faut que tu vois ça. C'est un petit film indépendant anglais.
Ah.
Sur une invasion extraterrestre. Faut que tu vois ça, mon gars. Faut que tu vois ça.
Mais si on fait ça, on va faire Monsters.
Tu vas à ton vidéoclub, tu vas prendre Attack the Block. Ouais, Monsters, magnifique.
Bon, il nous reste quelques films à faire.
Petit film anglais, excellent.
Hey, film quand même très bien reçu, hein, 8.5 sur 10 sur IMDb.
Oui, ça, c'est toute une cote. Hein. Sur IMDb, ça veut dire genre 12 sur
10. Rotten Tomatoes, c'est combien?
Ben attends, qu'est-ce que j'ai vu avant?
Ça existe encore, Rotten Tomatoes?
Ben oui.
Ça existe toujours.
Ben oui. Non, c'est super populaire.
Puis bon, attends, budget 105 millions et...
Oui, de l'argent bien dépensé. Là,
et là, recette 233 au US.
233 millions, juste dans le box-office US?
Ouais, juste US.
Excuse-moi, là.
Ça, c'est un des seuls films cette année qui va faire du profit, on s'entend. Hein.
Mm-hmm.
C'est pas Pacific Rim ou Elysium qui a fait ce genre de cash.
Mais moi, là. Ça me fait plaisir que Gravity soit sorti.
On va voir ce que Ender's Game va nous faire, là, qui vient de sortir.
Ah oui, il y a ça. Oui, ça, c'est clair.
C'est moyen, Ender's Game, à date. Hein.
Non, pas Ender's Game, le deuxième Hunger Game.
Oh,
il va faire du cash.
Games,
il sort dans une semaine.
Rotten Tomatoes, 97%.
Hein? Attends, Rotten Tomatoes est connu pour avoir des cotes assez basses en général.
Ouais, 97%.
Ah oui, Rotten Tomatoes, c'est pas gentil.
OK, c'est qui est allé mettre... OK, tapez, on va aller voir dans les top critiques.
C'est Armand White qui a dû faire une critique à chier. Dans Rotten
Tomatoes. Il n'y a pas Ebert, il y en a un qui est mort, là.
Ouais, Roger Ebert qui est mort.
Non, mais lui, il faisait des critiques correctes, là.
Ouais.
Tapez, c'est tellement Adams...
Moi, j'aimais ça quand ils ne s'entendaient pas les deux ensemble, c'est drôle.
Tellement Adams.com. Et là, il faudrait voir les top critiques seulement.
Tu regardes quoi? Oh, tu fais un détail des critiques de...
Mais il y a les top critiques.
Ouais.
Les top critiques ont tous aimé ça jusqu'à date.
Oh, moi, je voulais juste revenir un peu sur le scénario puis parler un petit peu de la scène de l'hallucination, là, où il y a George Clooney qui revient.
Uh-huh.
Et c'est la scène qui m'a sorti du film. Un peu.
Les deux fois?
La deuxième fois, je l'attendais, donc moins, vraiment. Puis bon, tu sais que c'est une hallucination, donc tu la regardes d'un œil différent. Mais la première fois, je ne l'ai pas tout de suite compris comme une hallucination. J'étais ouais. Wow, qu'est-ce qu'il nous fait
ça,
là?
J'étais comme, non, tabarnak, tu ne fais pas ça. Là. Non.
Moi, je pense que c'est un clin d'œil au film d'action. Qu'est-ce qu'il nous fait?
Là, je n'ai pas compris ce qu'il nous faisait. Et après, évidemment, tu comprends que c'est une hallucination, machin. Et là, tu te dis, OK. Mais pendant un instant, ça m'a. Et en fait, ce qui me gêne aussi, c'est pas tant la présentation, c'est-à-dire le fait qu'il arrive, qu'il ouvre le sas. Puis, tu sais, genre, là, tu te dis, non, mais attends, c'est quoi ce qui se passe?
Un peu de respect.
Ouais. c'est aussi le fait qu'il te dise, tu sais, d'une phrase très claire, en gros, ce que.
Genre, fais ça.
Non, mais pas. Ouais, bon, il y a ça, mais aussi le fait que. T'sais, le film est à propos du fait qu'elle est en train de vivre le deuil de sa fille. Là. Ça va être sa manière de passer à travers le deuil de sa fille.
Ça, je trouve que c'est pas nécessaire, toute cette ligne d'histoire.
Ouais. Et, t'sais,
c'est pour ça qu'ils ont évacué ça dans le deuxième Alien, là, Ripley, Sigourney Weaver. Dans le director's cut, on apprend qu'elle a une fille. Puis on comprend beaucoup de ses patterns. Puis tu fais ultimement, c'est comme tu vraiment nécessaire de savoir.
Dans Aliens.
Moi, je pense que.
Dans
non,
Aliens.
Je suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est comme une. C'était une
non, quand les gens sert pour la petite, avec la petite fille.
Les gens. C'est comme un petit peu le violon qui se met à jouer.
C'est tout ce film. Gravity, c'est toute une métaphore sur la vie, la mort, notre place, nous, dans l'univers, tu sais, sur l'angoisse de vie.
Ouais, non, mais moi, ça me pose pas de problème.
L'histoire de sa fille, c'est comme genre tout justement, cette espèce. C'est un enfant de 4 ans qui meurt d'une façon stupide. Ouais. Il meurt.
Mais ça a-tu vraiment sa place?
Ben oui,
ça
l'ajoute une couche au film, parce que je veux dire. Ça n'a pas une couche personnelle, c'est quelqu'un qui est comme genre... C'est
ouais, on n'arrive pas à s'attacher à la fille pour la fille, on s'attache à la fille pour ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle doit surmonter. Moi, sa vie personnelle, je m'en contrefiche. Qu'elle ait deux enfants qui l'attendent à la maison, ça,
il y a quelque
plutôt
chose
qu'une
de...
fille qui est morte, ça n'aurait rien changé. C'est son périple, c'est ce qu'elle vit là au moment présent.
Je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que qu'après coup, quand tu réfléchis, quand tu repenses au film, quand tu arrives à la fin du film, tu comprends aussi le fait qu'elle vient... Toute cette histoire, ça a été aussi son chemin, je ne vais pas dire son chemin de croix, parce que je n'aime pas les références religieuses, mais... ça a été son chemin pour passer à travers le deuil de
sa
fille.
À la limite, tu pourrais prendre moi, je sais pas, je trouve que c'est correct.
J'ai
ça donne une texture au personnage.
J'ai juste trouvé un peu maladroit la façon dont à ce moment-là, c'est dit carrément par Clooney.
Il le dit
carrément, là, genre, bon, maintenant, là, faut que tu passes à autre chose. Là, genre, okay, ta fille est plus là, faut que tu passes à autre chose.
Faut que tu sois une survivor.
Ouais, c'était juste un peu.
Ça, c'est full américain. Là, on est dans le mythe américain en ce moment. Donc, je pense qu'on peut avoir au Québec une réaction un peu négative à ça.
C'est juste la manière dont c'est écrit à ce moment-là.
Pour moi, ce moment-là, même si c'est des Mexicains finalement qui ont écrit le film, mais que je pense.
Mexicain ou espagnol?
Mexicain.
Ah
oui? Oui, c'est Et tu m'aimes también.
Ah ouais, mais c'est la gang, c'est Del Toro, lui, et comment ça s'appelle? Inarritu, c'est les trois Mexicains fous, là.
Attends, il y en a un autre.
Inarritu, c'est
Babel.
Amores Perros,
Babel.
Amores Perros,
21 Grams.
Mais c'est tous des fous qui font tout, là. T'as l'autre, là, l'ami à Quentin Tarantino, là.
Rodriguez,
que à chaque fois qu'il fait un film, c'est écrit.
Ouais, lui, il est fou, il fait tout.
Réalisé.
Monté. Ouais.
Monté, musique.
Produit.
Musique, Steadicam, c'est lui.
Filmé. Joué, musique, monté. Hey, donnez-y une claque, quelqu'un. Donnez-y du fucking Ritalin.
Mais il fait ce qu'il veut et ça marche.
Ah, mais c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est cool.
Moi, je
suis admiratif pour ça. J'aime pas tout ce qu'il fait, mais je suis admiratif de ces gars-là.
C'est impossible d'avoir autant de talent. C'est impossible parce qu'il est bon dans tout en plus. Absolument, le monde qui. On travaille en cinéma, nous autres. Hein.
Ouais.
Le monde qui sont capables de tout faire sont moyens dans tout. Ils sont jamais vraiment bons dans quelque chose. Lui, il est fucking bon.
C'est fatigant du monde de même parce que tu essaies d'expliquer au monde juste concentre-toi, fais quelque chose, puis là, ils pensent à Rodriguez, ils peuvent tout faire.
Ouais.
Je peux être comme Rodriguez, moi aussi. Enfin bref, donc c'est juste cette scène-là, finalement, qui m'a un petit peu dérangé. Un petit poil, mais c'est tout. J'adorais le film. Malgré tout, j'ai adoré ce film-là. Quoi.
Ouais.
Bon, c'est conclusion. C'est... Un extrait avant la conclusion.
Ouais, allez, un petit extrait avant la conclusion.
Explore, do you copy? Houston, you copy?
Mission Specialist Ryan Stone. I am off structure and I'm drifting. Do you copy? Anyone?
Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter pour ce magnifique film?
Si on résumait notre appréciation,
ben, moi,
ma part, je parle de moi en premier, mais,
vas-y.
Visuellement parlant et sonorement parlant, un moment de cinéma exceptionnel et rare. Scénaristiquement parlant, j'aurais passé un mot ou deux de plus à peaufiner deux, trois petits trucs, mais ça, c'est juste moi.
Ouais.
C'est tout.
Je crois que globalement, c'est une expérience à vivre, en fait. C'est comme un...
Moi, je vais aller y mettre 10 sur 10.
C'est comme un gros trip. Ouais, moi, je vais faire un truc comme ça. C'est, probablement... c'est marrant, j'ai un copain en Suisse, un copain réalisateur qui pour lui, c'est un film de parc d'attraction. C'est un film démo, tu sais. Je suis pas d'accord avec lui,
mais écoute, c'est genre de film qu'il faut...
Techniquement, c'est tellement balèze que ça mérite de passer en boucle dans des venues où il passe ce genre de trucs-là, tu sais, genre, je sais pas, moi, au Centre des sciences, ou des trucs comme ça.
Et là là.
Mais moi, j'ai hâte de voir comment ce film-là va vieillir dans le temps.
C'est vrai.
Parce que ce genre de film, tu sais, les films cultes, les films majeurs, on le sait pas quand on les voit, tu sais.
Ouais.
C'est comme, à un moment donné, ils transcendent le temps, mais c'est vraiment... Peut-être que dans 5 ans, on va reparler de Gravity, mais on va faire « Ah ouais, finalement, c'était chouette et tout. » Puis il va s'être passé tellement d'autres choses. On va être là. En fait, ce qui fait qu'un film devient culte, c'est est-ce qu'il annonce... Est-ce qu'il est incarné avec quelque chose qui dure longtemps dans le temps, tu sais?
Ben, si un film veut rester intemporel, il y a toujours une question de mode. Ça a l'air con, là, mais tu regardes Star Wars, regarde les coupes de cheveux, les costumes. Ils sont vraiment inspirés de l'époque. Regarde Avatar aujourd'hui. 4 ans plus tard, parce que là, tu dis genre Gravity dans 5 ans. Bon, comment tu perçois Avatar 4 ans plus tard?
Ouais, mais Time Out Star Wars, c'est fucking intemporel, là.
C'est pas tant que ça.
Ben non, c'est pas vrai. Voyons donc. Ben oui, mais je veux
dire... Oui, la thématique.
J'ai réécouté la New Hope il y a pas longtemps, puis j'ai trippé, là.
Oui,
t'sais.
Oui, mais la bulle est intemporelle.
Attends, mon frère fait écouter ça, ses enfants, ils trippent, là, oui, tu sais.
Oui. OK, techniquement, le son,
c'est
l'image...
C'est fucking intemporel, tout court.
Regarde les coupes de cheveux, les costumes.
Je m'en fous, ça reste intemporel.
C'est juste
ouais,
que...
Ouais, mais c'est une galaxie far, far away, on s'en fout des coupes de cheveux.
OK, mais parlons de Gravity. Regardons les costumes et les coupes de cheveux. Il y a quelque chose qui pourrait nous... être un turn-off dans 10-15 ans.
Non, c'est tellement neutre, en fait, finalement.
Mais non, mais
elle
pogne le saut de cosmonaute dans la station spatiale russe,
ouais.
Qui a le numéro 42 dessus, d'ailleurs, qui est une autre référence à un autre machin.
Il y a vraiment 42 dessus?
Oui.
Ça, c'est cheap un petit peu comme référence.
Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
L'autre fois, je suis tombée sur
Le nombre univers. Non, c'est quoi? C'est
la réponse à toutes les questions de l'univers.
42, oui.
Mais l'autre fois, je suis tombé sur...
C'est génial.
Ouais.
J'adore.
Mais le saut, ça paraît pas dans le film parce qu'elle a son premier saut qui est comme américain, moderne, machin.
Ouais, le truc blanc qu'on connaît, qu'on a toujours vu.
Fait saut un peu genre qui date de notre époque, là, qui a au moins 20 ans. Ça paraît pas. C'est juste dans des petits détails super subtils. Ouais. On dirait qu'elle a un manteau avec un foulard d'artiste, machin, par rapport à son premier saut très, très super high-end.
Your point is...
Ça va plus paraître dans 20 ans. Est-ce qu'on va vraiment
dire que le
film est victime de son époque dans 20 ans?
C'est un peu comme tout ce qui est militaire, tout ça.
J'ai écouté récemment Angel Heart, un film que j'avais bien aimé.
Oh, c'est bon, ça.
Ben voilà, ça
c'est
reste
pas
bon.
De science-fiction, il faudrait le faire. Pareil.
Non, mais tu regardes les costumes et tout, c'est les costumes de leur époque. Je suis en train d'écouter Dirty Harry, puis je regarde le look du film, qui est full de son époque, mais c'est le fun, tu sais, parce que c'est un film... En fait, Gravity, ça va marcher, parce que ça reste un film... C'est légèrement science-fiction parce qu'ils vont... D'ailleurs, j'aimerais ça le mentionner. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de mentionner. C'est la proposition, tu sais, les débris de
satellites.
C'est une théorie C'est pas sorti de nulle part. C'est une théorie qu'effectivement, les satellites pourraient commencer à aller en débris, puis ce qui ferait en sorte que la Terre serait entourée de débris, ce qui ferait en sorte que l'espace serait inaccessible pour nous. Parce qu'on pourrait plus sortir de la Terre.
Mais ça va arriver parce que dans Wall-E...
Dans Wall-E...
D'ailleurs, deux références à Wall-E.
Oui, deux références à Wall-E, ouais.
La première étant celle-là, quand Wall-E sort de la Terre, puis qu'il
passe à travers une espèce de barrière.
Une barrière de, mais qui, bon... Ouais. Il n'y a pas d'impact, mais oui, effectivement, genre une barrière de débris, ce serait. On a tellement mis de cochonneries en orbite.
C'est la vitesse à laquelle ils vont.
C'est pratiquement inévitable.
Ouais.
À moins qu'on trouve une machine pour ramasser un Wall-E cosmique pour ramasser tout ça. Là. Mais la shot de la bonbonne de.
Du distincteur.
Ah, il y en a parlé dans Neil deGrasse, là, cette scène-là. Là.
Mais est-ce quelqu'un qui n'a pas remarqué, genre, ça c'était ma... comme l'idée la plus géniale du film Wall-E, à peu près.
Ouais. Ah, c'est dans Wall-E, t'as le truc de l'insecte.
Mais oui, mais il fait sa danse avec
c'est,
elle.
C'est
mais
une
oui,
des pas... choses les
mais non,
plus
je sais.
Imaginatives qui ont sorti dans Wall-E. Puis là, génial. Genre, 4 ans plus tard, ils le font dans ce film-là. C'est pas juste un clin d'œil, c'est trop gros.
Non, non, mais c'est clair, ça peut être. Mais c'est une belle référence, en fait.
C'est une belle référence.
C'est mignon que Gravity fasse référence à Wall-E. J'avais pas. Excuse-moi, mais j'ai pas fait le lien, puis on a vu la semaine
ah ouais, non,
oui, c'est le dernier qu'on a fait.
Se propulse avec le truc. Attends, c'est tellement évident, là.
C'est sûr mais que ça marche. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, un truc comme ça. C'est une pression en plus.
C'est hyper,
y a pas
bien, c'est hyper bien utilisé, en fait, à part ça. C'est hyper bien utilisé. Quoi.
Puis un autre truc qu'on n'a pas dit que j'aurais aimé dire.
Cette scène est tellement intense, là,
les images. Toutes les images de la Terre sont tellement belles dans ce film.
La mer.
Oui, ils sont un petit peu toujours dans les mêmes symboles.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eva, dans Wall-E, là, c'est elle qui renaît, machin, elle retombe sur la Terre.
On y est, là, on y est.
C'est la renaissance de la.
Tout se recoupe. C'est très bien qu'on ait fait Wall-E, en fait, avant Gravity.
C'est super thématique.
Bon, ça fait 1h15 qu'on jase. il est temps de conclure. On a du fun, il est temps de conclure. Alors, dans 2 semaines, si on arrive dans 2 semaines, parce qu'entre les emplois du temps occupés, approximativement dans 2 semaines, on va se retrouver pour parler de Gattaca. On va rester dans le thème de...
Wow.
De l'espace. Mais là, c'est le désir de l'espace.
Ouais,
c'est
oui,
le désir
parce qu'ils ne vont jamais dans l'espace.
Ouais, ils ne vont jamais. Mais ils en parlent beaucoup.
Non, monsieur, à la fin, quand même.
Non, mais on ne le voit pas.
Mais donc, ça va être ça. Et puis, alors, le truc rigolo qu'on aimerait faire après, pour l'épisode suivant...
Un film qu'on a tellement adoré qu'on...
Voilà. C'est parce qu'on vous avait dit qu'on a déjà un préjugé un petit peu positif pour Gattaca, donc on veut aller un petit peu dans
l'autre sens.
Dans l'autre sens.
On s'est dit qu'on allait faire un épisode sur un film... plutôt poche. Et on va probablement parler de Armageddon de Michael Bay.
Alors, pas manqué.
Les fans d'Armageddon, c'est le temps de sortir vos arguments pour le film.
Ouais. Envoyez-nous des commentaires.
Et on fait spécial. Hein?
Ouais, on va faire un spécial Armageddon. On va avoir bien du fun parce qu'on aimerait, on va se faire un commentary track comme on avait fait pour 2001. Oui.
On peut pas dire commentaire du réalisateur parce que
voilà.
Écoute, si quelqu'un a le numéro de Michael Bay, envoyez-nous son cellulaire, on voudrait l'appeler pour on va l'asseoir.
Donc c'est ça. En fait, on va donc pareil que pour 2001,
on va
s'asseoir et écouter le film et en parler en même temps, ça risque d'être assez drôle.
Il va avoir des couteaux.
Ouais, c'est vrai. On est assez unanime en fait dernièrement dans nos commentaires de films.
Ouais.
On a tous aimé District 9, on a tous aimé Wall-E, on a tous aimé
Gravity.
On prévoit une certaine enthousiasme pour Gattaca, sans vendre de punch, et on prévoit un certain non-enthousiasme pour Armageddon. J'ai l'impression qu'on va essayer de trouver peut-être des films un peu plus controversés dans le futur, mais là, ça ressemble à ça.
Ouais, après,
On en a sur la liste des films controversés. On y arrivera.
Ouais. Après Armageddon, il va falloir trouver un film super glauque que personne n'a vu. Ouais. Un truc indéchiffrable.
Un truc avec Stalker de Tarkovsky.
Ou Sunshine de
Danny Boyle.
Genre.
Ça, on peut avoir des débats, j'imagine, assez.
Ouais, c'est vrai.
Alphaville, le Godard.
Oh là là, oui. Avec le respirateur et tout. Oh my God, c'est vraiment pas vu ça.
Bon, les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets entre deux épisodes?
Moi, je sais pas, je suis trop occupée, là.
Comme t'es pas drôle, quoi!
Ouais, mais c'est parce que je vais dire Facebook, je vais dire Twitter, puis je vais comme pas répondre. Je suis vraiment désolée. En ce moment-là, avant janvier 2014, essayez pas de me contacter, là.
Okay,
sauf si vous avez une bonne voix pour une pub de D-Box. Ça.
et l'audition demain.
Olivier, toi, on...
Moi, si vous voulez me parler, tapez mon nom, puis vous allez me trouver. Oui. Je vous en dis pas plus.
Mystérieux, ça pogne tout le temps.
T'es-tu sur LinkedIn, toi, finalement? Parce que sur Google, tu tapes un nom de quelqu'un, c'est LinkedIn qui apparaît en premier.
Moi, ouais, écoute, tape mon nom sur Google, tu seras surprise de ce que tu vas trouver.
Je vais faire ça tout de suite. Ça.
Oups.
Bon, pour le reste... ben, moi, je suis toujours à la même adresse sur Twitter, Stedinic, puis je suis aussi un petit peu derrière, derrière le Twitter et le Facebook de 24.
Ouais, c'était ici, moi, je n'y suis plus du tout.
Ouais,
alors,
donc, c'est ça. Moi, je suis là. Et puis d'ailleurs, on jase de temps en temps avec quelques auditeurs. C'est sympa. D'ailleurs, on parlait d'Inception tout à l'heure. Il y en a...
Oh, wow!
Il y a un auditeur dont je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi, qui nous a mis un lien vers une nouvelle hypothèse sur la fin du film. Comment on peut savoir s'il est dans la réalité ou pas? Parce que tu sais, il y a toujours cette espèce de question sur Inception.
Inception.
Ah ouais.
Et donc, il a dégoté une petite analyse de la fin, enfin, un petit truc, c'est rigolo. Tout ça étant dit, il est temps d'arrêter de dire n'importe quoi. Il est temps d'arrêter de boire. Et de vous souhaiter à tous une belle soirée, matinée, ou je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast.
Et puis, la troisième bouteille?
Mais j'y goûterai, t'en veux.
Mais avant de conclure, parlons-en.
Mais oui, parce qu'il y avait quand même
Il y a encore un concept. C'était...
T'as pas pu peser sur arrêter, ça je roule encore?
Oui.
Parce qu'on vient d'hijacker ta faim.
Tellement dans ta face. On est comme le Joker dans ton vol de banque.
Nick, ça sent mal, là.
Non. Okay,
faire une histoire courte, moi, ce soir, j'ai dit, j'essaie deux produits québécois différents. Donc, un vin de bleuet, un vin de miel. On a toujours des vins thématiques. Les noms matchaient tout. En plus, c'est des produits québécois, ce que je me suis rendu compte après avoir payé. Je suis fier de ma shot. Et là, je me suis dit, si c'est un fiasco, parce que un vin de bleuet et un vin de miel... On ne sait jamais vraiment à quoi se tendre. Alors, je me suis dit, l'italien à la rescousse, my name is Sabino, mais llamo Sabino, et ça, c'est en espagnol, ça n'a aucun sens, mais les Italiens à la rescousse viennent être le backup parfait.
OK, donc le voilà, le dernier, le troisième, le vin de secours.
Qu'on n'a pas goûté, mais...
Le vin de secours est qui est probablement le produit vedette de la soirée, parce que c'est lui qui m'a coûté le plus cher.
Voilà.
Le vin de secours pour les alcooliques.
C'est un rouge de 2011 qui s'appelle Planeta.
Un italien. Faut-il le mentionner?
Mais tu l'as déjà mentionné.
Cirasuolo
di Vittoria. Oui, mais attends, moi, je suis...
À moitié italien?
Ouais.
Tu parles-tu italien?
E buono come quello della mamma, e anche...
Tu parles pas italien?
Giovanna, sono Pippo.
Ben, c'est là, quelque part, là, quand j'étais petit, ma grand-mère, machin et tout.
Ça veut dire quoi, Cirasuolo di Vittoria?
Comment tu parles mal italien? Là, parce que suisse. Articule quand tu parles.
Bien, donc après tout ça, un grand merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Merci encore et à bientôt.
In the not too distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. In a society where success is determined by science, divided by the standards of perfection, one man's only chance...
How do you expect to pull this off?
I don't know exactly.
...is to hide his own identity.
This is the last day that you're gonna be you and I'm gonna be me.
...by borrowing someone else's.
Congratulations.
What about the interview?
That was it.
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 seconds.